Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans les studios Nutri Radio. Franchement, je préfère. Quand vous êtes là, loin de nous, c'est pas la même chose.
Je confirme. Et c'est pas la même chose non plus au niveau du temps. Hein. Il faut quand même un peu meilleur sur la Côte d'Azur, j'avoue.
Oui, bon, on est ici, on est partout en même temps. Moi, je parle surtout de ce côté, voilà, on sent les vibrations, les bonnes ondes, et puis au moins, il n'y a pas de problème technique, de lien ne part pas, on ne sait plus. Ah, alors, on va continuer notre petite exploration. Auparavant, laissez-moi aussi vous remercier, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à écouter Nutri Radio. Franchement, merci à vous, et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à aller sur Nutri TV, comme ça vous participez un petit peu à la continuité de tout cela, c'est important, 2-3 millions par an, bon, on n'est pas gourmand. Allez, rendez-vous sur nutritv.fr, neuronutrition, non ça c'est notre émission, la sphère neuro avec Célia Morès, le vendredi de 11h à midi, c'est les nouveaux horaires de cette rentrée, 11h à midi, prenez note, si vous êtes sur le live c'est déjà fait, mais bon peut-être que vous venez de passer par là par hasard et vous dites tiens Célia Morès, elle est entre 11h et midi maintenant le vendredi, eh ben oui. Et les émissions aussi, si vous êtes en podcast, sachez-le, si vous voulez écouter ça sur le live. Donc le podcast qui est mis à disposition juste après, non c'est le dimanche, voilà, dimanche 18h. Donc on va continuer notre petite exploration passionnante et à la fois historique des liens entre la mythologie et différents domaines du cerveau, plein de trucs. On a vu lors des émissions précédentes, on a fait quoi ? On a fait l'attrait pour la mythologie, ce que ça nous enseignait, on a vu que c'était très important. On a également vu la mythologie, la psychanalyse, la mythologie, la psychologie. C'est très complet. Hein. Si vous n'avez pas écouté ces émissions, vous n'avez rien écouté. Écoutez tout, à vrai. Et on va terminer ce cycle sur la mythologie et les neurosciences. On y arrive. Alors, quels sont les liens entre la mythologie et les neurosciences, Célia ?
Alors, les liens sont totalement nombreux. On ne s'imagine même pas quels peuvent être ces liens-là. C'est-à-dire que dans la mythologie, les écrits mythologiques, des récits mythologiques, on va retrouver quoi ? Des notions de neurosciences modernes. Alors notamment, la fameuse maladie, la syphilis. La syphilis est appelée aussi maladie vénérienne. Maladie, pourquoi ? Parce que cela vient de Vénus, maladie de l'amour, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible. Ou alors la maladie de l'hydre, telle que, finalement, dans la mythologie, l'hydre avait 7 têtes et on n'arrivait pas à tuer l'hydre. Et bien là aussi, puisque la syphilis était dure à tuer. On va avoir aussi les notions de cerveau, l'importance du cerveau, comme quoi c'est au niveau du cerveau qu'il y a le siège de la conscience. Déjà, au niveau des récits mythologiques, on retrouve ces notions. Ils étaient au courant, ils le savaient, alors ils le disaient avec leurs propres mots, pas aussi brutalement, si je puis dire, que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire tac, 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 au niveau scientifique. Mais on retrouve justement des notions, le cerveau, siège de la conscience, le fait que les nerfs périphériques et la moelle épinière sont très importants, puisque s'ils sont sectionnés, on va être atteint de tétraplégie ou alors de paraplégie. Pareil, la notion comme quoi dans les migraines, c'est finalement une pression intracrânienne trop importante et qu'il faut faire diminuer notamment cette pression. C'est le cas de certains types de migraines. Ben, chez les Grecs, enfin dans les récits mythologiques, on retrouve cette notion-là. On la retrouve chez Zeus, qui, ayant de fortes douleurs à la tête des migraines, il va demander à son fils, Héphaïstos, de lui fendre le crâne en deux pour justement diminuer cette pression intracrânienne. On parle de craniotomie, très exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie grecque, comment est-ce que cela est expliqué ? C'est tout simplement que Zeus enfante Athéna, effectivement, ben, par sa tête, et que c'était à cause d'Athéna qu'il avait ces douleurs-là. Donc on en est loin de là aujourd'hui, mais déjà il y avait ces notions-là. On retrouve aussi des notions au niveau des médicaments. Hein, les hypnotiques que l'on utilise par exemple pour mieux dormir, que l'on connaît aujourd'hui, ça vient de hypnos, donc qui était finalement relatif à toutes les personnes dans les récits mythologiques qui intervenaient pour expliquer le sommeil. Donc on retrouve aussi, vous savez, les anomalies veineuses que l'on retrouve au niveau du cerveau, des petites veines, ces petites anomalies veineuses sont appelées caput medusa. en référence à la tête de Méduse avec tous les petits serpents qui entourent sa tête, parce que cela ressemblait à, les anomalies veineuses que l'on retrouve sur les radiographies du cerveau, ressemblent finalement à cette tête de Vénus, aux serpents qui sont sur la tête de Méduse. Il y avait à voir quoi d'autre ? D'autres notions anatomiques, comme le ptérion, qui est un point finalement de convergence entre divers lobes crâniens, qui fait référence à pourquoi est-ce que le chirurgien, le neurologue de l'époque appelait cela ptérion, enfin un peu plus tard, en référence au casque de Pégase, parce qu'il s'est imaginé que les ailes du casque, finalement, se situaient à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'on retrouve ces différents éléments, et il y aurait d'autres exemples que l'on pourrait citer, et qui font que dans les neurosciences modernes, on retrouve effectivement des rapports avec la mythologie, que dans les récits mythologiques, déjà, on avait ces notions-là. Et c'est ça, c'est une chose très importante, oui.
Et c'est fascinant, les migraines de Zeus. Moi qui suis sujet aux migraines, je me dis peut-être, voilà, je suis le fils de Zeus. Zeus, quand même, le dieu suprême de la mythologie grecque. C'est incroyable. Moi, dieu de l'Olympe, c'est fou. C'est fou. Bon, bah, on en apprend encore et c'est pas fini, mesdames, messieurs, parce que l'émission, elle va se poursuivre. Parce que si je suis intervenu, c'est pour dire qu'il y a une petite pause et elle fait tac, tac, tac. Vous l'avez compris, c'est Célia Morès de retour dans un instant sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès, sur Nutri Radio, la suite de cette émission, ça passe tellement vite, on n'a même pas le temps de boire un café lors de ces pauses. Bon, c'est vrai, on prend un petit peu notre temps aussi, merci de nous écouter, merci. Hop, je coupe le micro, mais merci vraiment à vous, la mythologie et les neurosciences, quel lien, c'est fascinant. Moi, cette série d'émissions sur la mythologie, on va dire, j'en ferai jour et nuit, parce que c'est la base de tellement de choses. Aujourd'hui, on se dit, bah oui, ça vient de là, c'est pas moi qui ai inventé ça, tiens, bon. Par exemple, la migraine, tout à l'heure, et Zeus. Bon, je vous invite à réécouter, parce que là, on va poursuivre avec le concept de neurologie clinique. C'est bien.
Alors, effectivement, on a des concepts de neurologie clinique que l'on retrouve, justement, au niveau des récits mythologiques. Et notamment, j'ai décidé de faire focus sur deux, c'est-à-dire sur les AVC, accidents vasculaires cérébraux, et ensuite sur l'épilepsie, parce que ce sont des concepts de neurologie clinique, des problèmes, des maladies que l'on retrouve actuellement et dont on parle beaucoup. Alors, au niveau des accidents vasculaires cérébraux, on va plutôt parler de ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, très exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ces symptômes ischémiques transitoires, c'est la même chose qu'un AVC, à la différence qu'on n'a pas finalement, au niveau des radiologies, ça ne se voit pas. Ce sont des épisodes qui durent en généralement une heure maximum. Mais on ne peut pas le voir après à la radio comme c'est le cas pour un AVC où on va pouvoir se représenter. Quand je dis radio, c'est tout ce qui est imagerie cérébrale où on va voir qu'il y a eu un AVC. Là, on ne voit rien. La seule chose, c'est que les symptômes cliniques vont être les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes de parole, de confusion au niveau de la parole, une cécité au niveau d'un œil, le bras qui va être engourdi, et je vous le dis, ça dure moins d'une heure. Et on retrouve ces phénomènes-là dans la mythologie. Alors notamment, j'ai pris des petits exemples, donc ça me permet de reprendre juste mon petit papier.
Prenez votre petit papier, parce que là, tout ça, c'est sans papier. Hein. C'est de la tête, mémoire, voilà, c'est de la connaissance, de la culture. Si vous voulez, c'est comme ça. Docteur en neurosciences, voilà, c'est Célia Morès, sur Nutri Radio.
Alors, effectivement, c'est toujours de mémoire. Parce que, évidemment, je fais travailler mon cerveau en même temps. Très important, effectivement, pour acquérir une bonne mémoire. Hein, si vous avez écouté les émissions que vous avez faites sur la mémoire, je vous encourage peut-être à aller les réécouter et voir que c'est comme cela qu'on fait travailler son mémoire, qu'on mémorise mieux et ça évite le déclin cognitif. Alors, effectivement, dans l'accident, donc ils sont transitoires, accidents ischémiques transitoires très exactement. On en retrouve notamment lorsque Pénélope, donc la femme d'Ulysse, perd la parole. lorsqu'elle découvre le complot qui va consister finalement à tuer son fils. Donc là, elle va perdre sa parole. Et bien justement, c'est l'un des symptômes de ce qu'on appelle ces AIT. Pareil avec, effectivement, pour les AVC, avec le fameux mythe d'Echo, Echo, E-C-H-O, qui n'a jamais pu crier son amour, finalement, à Narcisse. Et bien, tout simplement, ça viendrait, effectivement, de problèmes, des aspects, si on lit les mythes, on va dire qu'on retrouve les symptômes de ces accidents ischémiques transitoires. Ça, c'est un premier point. Le second point, effectivement, on retrouve aussi des notions au niveau de l'épilepsie. L'épilepsie chez qui ? Chez Hercule. Héraclès chez les Grecs, Hercule chez les Romains. Là, on sait que Hercule, malgré tous les travaux qu'il a menés, malgré effectivement le fait que finalement c'était un surhomme, eh bien il était atteint d'épilepsie. D'ailleurs, Hippocrate lui-même explique finalement la force avec laquelle a pu faire les 12 travaux d'Hercule dont on parle, Hercule, grâce justement au fait qu'il soit atteint d'épilepsie. Pourquoi ? Parce que les épileptiques, notamment en situation de crise, ça va augmenter la force et la puissance physique. Donc ça pourrait s'expliquer par cela. Mais aussi, ça va expliquer quoi ? Ça va expliquer finalement, Hercule a été atteint de troubles de conscience passagers. Il a eu des crises de violence, des hallucinations. Mais quand on dit des crises de violence, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à tuer femmes et enfants parce qu'il était en train de faire une crise d'épilepsie.
Ah oui, une petite crise de violence, oui, effectivement.
Grosse crise de violence, mais d'ailleurs, le pire, c'est qu'actuellement, lorsqu'il y a des, on va dire, des crises de violence avec finalement les mêmes types de conséquences, et qu'il s'agit de personnes atteintes d'épilepsie, on va expliquer la crise de violence par le fait que cette personne soit atteinte d'épilepsie, enfin du moins au niveau juridiquement, pour essayer probablement de sauver la personne et d'acquitter la personne, et d'expliquer qu'elle n'était pas maître d'elle-même, mais que c'était dû à la crise d'épilepsie.
Oui, reste à ce moment-là. Ça reste un truc qu'on va aller chercher. Bon, on va faire un truc ici. Oh là, c'est un peu vicieux.
C'est un peu vicieux, parce qu'effectivement, c'est du domaine du juridique, ce n'est plus du mien, mais effectivement, les épileptiques sont violents. Donc, il va y avoir quoi ? Il va y avoir délire religieux, de l'agressivité, de la violence, des hallucinations, de la violence physique, de la violence verbale. En fait, c'est quoi l'épilepsie ? C'est une hyperactivité cérébrale, et notamment au niveau de certaines zones cérébrales, notamment du lobe temporal. Et quand je dis que finalement on retrouve cette maladie épileptique chez Hercule, d'ailleurs on parle même de maladie herculéenne en parlant d'épilepsie, c'est que si on se réfère à Hercule d'Euripide, il cite, alors permettez-moi de lire,
Il n'était
plus lui-même. Il n'était plus lui-même. Ses traits étaient déformés, ses pupilles étaient dilatées, ses yeux roulés et soudain injectés de sang et de la mousse coulée sur sa barbe bouffée.
Ah bah oui, on y est là.
Totalement. Et c'est totalement la crise d'épilepsie.
Les caractéristiques
que l'on retrouve effectivement dans les crises d'épilepsie. Donc ce qui veut dire que Hercule lui-même en était atteint, et déjà dans ses récits mythologiques, effectivement, on retrouve ces notions-là. Alors à l'époque, peut-être qu'il n'avait pas appelé épilepsie, c'est maintenant que nous l'avons appelé épilepsie, mais une chose est sûre, c'est que cela existait déjà, qu'il savait déjà décrire les symptômes cliniques, et peut-être même, dans certaines situations, les soigner, puisqu'ils avaient aussi des traitements, dans certaines situations, des médicaments qui pouvaient aussi contrer, en tous les cas, pour d'autres raisons. Peut-être qu'une épilepsie, là, je sors un peu du cas de l'épilepsie, mais pour vous expliquer qu'il y avait aussi des médicaments qui pouvaient contrer.
À l'époque, déjà, il y avait des médicaments.
Oui, des traitements, certainement à base de plantes.
On sait quelles plantes étaient utilisées à l'époque, non ? Vous ne savez pas ? Enfin, peut-être qu'on sait, mais peut-être pas vous, là, parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais bon.
Alors, ce n'est pas effectivement le sujet de l'émission, donc je ne connais pas toutes les plantes et tous les types de traitements, mais c'était effectivement certainement des antagonistes ou des agonistes aux opiacés. Il faut savoir aussi qu'à l'époque des Grecs, justement, on avait fait d'ailleurs des émissions, on avait commencé aussi des émissions sur les addictions, et donc effectivement, le pavot, qui est une plante et qui est à l'origine finalement de ce que l'on connaît sous le nom de morphine pour le médicament ou sous le nom d'héroïne, et pavot, c'est aussi de l'opium. Les Grecs consommaient aussi de l'opium parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'à la fois c'était un antidouleur, mais à la fois aussi ça permettait effectivement de calmer les les angoisses, l'anxiété. Et on sait aujourd'hui que la morphine est un peu sédative et calme effectivement les anxiétés, en tous les cas les douleurs. C'est encore donné dans les hôpitaux lorsqu'on subit une chirurgie importante. Donc il y a d'autres types de remèdes qui ont permis effectivement d'expliquer. Effectivement, ils savaient déjà, en tous les cas, à cette époque-là, soigner avec des remèdes qu'aujourd'hui on utilise encore sous un autre nom, d'une autre forme, d'une autre manière, mais qui avaient effectivement les mêmes vertus. C'est en cela que c'est important, en fait, finalement, de se référer à ces récits, puisqu'on retrouve la description de manière imagée, souvent reliée, à des exploits faits par des surhommes, à des dieux, où nous l'avons vu en première partie d'émission avec Zeus et sa migraine, avec des explications finalement irrationnelles pour de nos jours. Mais à l'époque, ils ne savaient pas expliquer scientifiquement ce que c'était. Donc, ils expliquaient effectivement par l'action des dieux. C'était pour eux la seule explication possible pour expliquer un phénomène. Il ne faut pas expliquer et oublier que la mythologie permet d'expliquer certains phénomènes, notamment certains phénomènes naturels. Et pour eux, c'était leur explication. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a. Tant qu'on n'a pas d'explication scientifique, on va se référer peut-être au surnaturel, à tout ce qui va être théologie, etc.
On marque une dernière pause et on va se retrouver pour la suite et la fin. On va aborder les troubles cognitifs. C'est juste après ceci.
La sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Elle est complètement habitée par ce qu'elle dit, elle est concentrée, on parle de mythologie, de neurosciences, c'est passionnant et surtout ça nous donne envie de relire toutes ces œuvres qui font référence à la mythologie pour maintenant que vous nous avez appris tout ça, de redécouvrir ça d'un œil différent, une analyse surtout différente. Après avoir parlé des références donc de la mythologie aux neurosciences modernes, des concepts de neurologie clinique, on va aborder dans cette dernière partie les troubles cognitifs, Célia.
Alors totalement, effectivement, déjà dans la mythologie, il y avait référence aux troubles cognitifs. Notamment au déclin cognitif que l'on voit avec l'âge, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec l'âge, il y a ce qu'on appelle un petit déclin cognitif qui est normal. Je parle normal, pas pathologique, je ne vais pas parler de la maladie d'Alzheimer, c'est pas le sujet, mais effectivement, c'est-à-dire que les personnes commencent à avoir une diminution de leur mémoire, une diminution de leur attention, etc., etc. Dans la mythologie, on y voit déjà des références, et ces références-là de déclin cognitif lié à l'âge. Alors, il s'agit de quel mythe dans la mythologie ? Eos, déesse de l'aurore, tombe amoureuse d'un mortel. Sauf que le mortel, il vieillit. Il va finalement, normalement, en vieillissant, la fin, ça va de la naissance à la mort. Et comme elle ne veut pas qu'il meure, elle va demander à Zeus de lui donner l'immortalité. Zeus va accepter sa demande, sauf qu'elle va oublier de lui demander la jeunesse. Et que va-t-il se passer ? C'est que l'amant d'Eos, donc de mémoire Titonus, j'espère ne pas écorcher son nom, va vieillir et va avoir les attraits, si je puis dire, de la vieillesse. C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus dépendant, il va balbiller sans cesse, etc., tel qu'on peut le voir chez les personnes âgées, voire peut-être démentes jusqu'à la fin, puisqu'il vieillissait de plus en plus et qu'il était donc devenu immortel. Donc déjà, dans la mythologie grecque, dans ce type de récit, on voit qu'il y a un lien entre vieillesse et déclin cognitif. Ça, c'est un point important. Le second point, c'est qu'on parle beaucoup de mémoire. Qu'est-ce que la mémoire, mémoriser et l'oubli ? Dans la mythologie grecque, on explique aussi ces phénomènes de mémoire et d'oubli. Il y a deux notions. Il y a d'abord l'été. L'été, c'est finalement un des fleuves de l'enfer. Et quiconque se baignait dans ce fleuve-là oubliait tout, oubliait son passé. Alors, ça fait évidemment référence au passage de la vie à la mort, qu'il faut peut-être oublier sa vie terrestre pour accéder à la mort et aller au-delà, dans l'au-delà, très certainement. Mais déjà, il y avait cette notion-là de se dire « je bois l'eau du fleuve et j'oublie ». Donc il y avait ces notions d'oubli, de mémoire que l'on peut perdre. Ensuite, on va avoir la fameuse histoire au niveau d'Ulysse, du voyage d'Ulysse avec les lotophages. Alors au cours de son voyage, Ulysse et ses compagnons vont faire escale dans une île où il y a des lotophages. Ces lotophages au départ, finalement, vont être, comment dire, accueillants. Sauf que ils vont leur donner des fleurs de lotus à manger. Et c'est la conséquence de ces fleurs de lotus va avoir, finalement, chez les personnes qui vont les manger, l'oubli. C'est-à-dire qu'ils vont totalement oublier pourquoi ils sont venus là. Ils vont oublier de repartir. Ils vont ne plus avoir envie de repartir. Ils vont avoir envie d'une seule chose, c'est de manger ces fleurs de lotus. Donc, ce sont les fameux lotophages. Et il va falloir beaucoup de ruses, notamment à Ulysse, pour pouvoir tirer ses camarades de là et pour pouvoir les forcer à repartir. Donc, on voit déjà qu'il y a ces problèmes d'oubli, de mémoire et les conséquences que cela peut avoir, du coup, dans la vie quotidienne, puisque ça va perturber le voyage, quelque part, d'Ulysse. Donc, c'est vraiment ces deux conséquences-là, ces deux choses-là qui font qu'on retrouve déjà dans les récits mythologiques et notamment beaucoup dans l'Iliade et l'Odyssée, ces notions liées aux neurosciences, finalement aux connaissances en neurosciences, qu'elles soient générales, anatomiques, mais aussi au niveau de ce qui est de la cognition, avec ces problèmes de mémoire qui sont évidemment importants, puisque on le voit bien, ça va impacter, comme je viens de le dire, le retour d'Ulysse, effectivement, dans son pays natal pour rejoindre sa Pénélope.
Ah là là, mais j'ai envie de vous dire masterclass. Voilà, c'était passionnant, émission à redécouvrir et à réécouter tranquillement parce qu'il y a des choses à noter aussi. Là, c'est sur le live. Si vous êtes sur le live, forcément, bon, entre la musique et tout, vous dites tiens, c'est intéressant, je vais réécouter quand ce sera en podcast. Et donc après, faites-le hein, dimanche 18h, on met tout en podcast. Merci Célia. On a clos cette série dédiée à la neurologie et à la mythologie. C'était passionnant. On va se retrouver la semaine prochaine parce que les émissions, mesdames, messieurs, là, c'est parce qu'elle a voulu vraiment entamer cette saison à 200 à l'heure. Elle a mis la barre très haute. Et la semaine prochaine, on va parler d'autre chose puisque si je prends mon petit papier, boum, on va évoquer. Maintenant, on va encore évoquer quoi ? C'est la mythologie dans l'art cette fois. Ah, mais oui, qu'est-ce que je
fais ? Totalement.
La mythologie dans l'art. Alors là, je pense que cette émission-là. Je me demande si ça va pas être votre préféré, chers auditeurs, mais surtout aussi à vous, Célia, parce qu'on sait votre appétence, votre passion pour le domaine de l'art, on sait pour la mythologie, donc là, les deux, ça va combiner. Ce sera la semaine prochaine. Au revoir, Célia.
Au revoir, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio.